les associations sud-avéronaises ont leur mot à dire sur Radio Saint-Afrique. Chaque dimanche à 13h, c'est le créneau association sur Radio Saint-Af, micro ouvert pour toutes les associations du Sud-Aveyron.
Bonjour Colette, bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous venez ici aujourd'hui à Radio Saint-Afrique. Nous avons l'honneur de vous accueillir. Nous avons aussi Sabine, une auditrice qui viendra peut-être intervenir tout à l'heure. Vous êtes les représentantes ou les participantes au collectif de soutien aux migrants, collectif Mis à Voix. Alors vous arrivez aujourd'hui et c'est très intéressant parce qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture un projet de loi. Vous pouvez nous en parler ?
Oui. Moi, je voudrais préciser qu'on n'est pas les représentantes.
Très bien.
On fait partie du collectif qui est un collectif. Et donc, du coup, on a pu se libérer pour cette émission. Voilà. Sachant que je pense que le reste du collectif nous fait confiance, mais il n'y a pas de délégation de pouvoir.
Alors, avant de revenir au projet de loi, ce collectif, ouais. Il existe depuis quand et pourquoi il a été créé ?
Donc, d'après mes souvenirs, c'est dans les années 2010 qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont contacté les personnes qui éventuellement pouvaient les aider, parce qu'ils se retrouvaient dans une situation, la plupart du temps, des personnes donc, qui n'avaient pas de papier et qui se retrouvaient dans une situation compliquée et qui avaient besoin de soutien, d'aide. Donc, ils ont contacté les gens qu'ils connaissaient. Et de là est venue la création d'un collectif de personnes qui se sont engagés à apporter l'aide qui pouvait donner à ces personnes.
Oui, c'est ça. Il y avait, dans les années 2010, il y avait plusieurs familles guinéennes, notamment. Puis après, il y a eu deux familles de Mongols. Et donc, très concrètement, ces gens ont été frappés à la porte de Myriad, l'association d'aide à l'intégration des personnes issues de l'immigration à Millau. Et puis voilà, Millau c'est une petite ville, les gens se connaissent et de fil en aiguille il y a eu d'autres amitiés, d'autres solidarités, d'autres entraides qui se sont nouées, voilà. Et à partir de ces années-là, on s'est un peu structuré, non pas en association, mais vraiment en collectif, qui comprend deux associations, l'ARZAC Solidarité et l'association Brain de Temps, et des particuliers, voilà.
Comment ça se passe? Les migrants viennent vers vous? Ils savent donc qu'il y a sur Millau la possibilité de faire appel à un soutien?
Ce collectif, c'est comme elle dit, le Millau c'est petit, il est connu, donc ça peut être les associations ou les services sociaux de Millau qui contactent que ce collectif parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas de solution pour ces personnes qui les contactent. Donc ça peut être des associations qui sont sur la voie publique. Et puis après, il y a aussi les migrants entre eux qui se connaissent, qui se rencontrent, voilà, et qui disent, vous avez un problème, contactez-les.
De bouche en oreille, comme ça, voilà. On sait qu'il existe un réseau de soutien efficace. Quel genre de soutien vous pouvez apporter?
Voilà, justement, parce que si vous voulez, on ne s'inscrit pas dans le caritatif, on s'inscrit vraiment dans l'accès aux droits, en complément des associations caritatives qui, elles, font de l'aide quotidienne, quoi, au vestiaire, à l'alimentaire, etc. Et donc, les personnes vont voir telle ou telle association caritative pour tel ou tel besoin, et on est contacté en ce qui concerne les problèmes vraiment d'accès aux fameux papiers. Voilà. Donc l'aide, elle est très concrète, c'est monter des dossiers, c'est faire des recours, accompagner les personnes en préfecture, à l'OFPI, trouver un avocat, contacter la CIMAD pour savoir quels sont leurs droits, enfin toutes les possibilités juridiques qui peuvent s'offrir, malheureusement l'éventail est de plus en plus petit, pour essayer que ces personnes vivent en situation régulière sur le territoire français.
Et quel est l'accueil de l'administration véronaise ?
Au fil du temps, on s'aperçoit que l'accueil, il est vraiment de plus en plus inexistant ou en tout cas insatisfaisant, puisqu'on a connu même la période où il y avait un service social d'aide aux migrants il y a une quinzaine d'années avec un assistant social sur Millau, et maintenant on va dire qu'il n'y a plus rien, et la préfecture, puisque c'est la préfecture qui est chargée de faire ce service administratif, ne joue pas du tout ce rôle de conseil et d'accompagnement, même pas de conseil, enfin il n'y a pas d'information qui est donnée. Donc en fait, il y a simplement une réception de souvent de manière très abrupte et incompréhensible pour les personnes qui sont là. Et c'est vrai que le collectif, c'est pour ça que le collectif accompagne ces personnes le plus souvent pour pouvoir comprendre déjà ce que l'administration demande, parce que c'est... Voilà, peut demander trois fois des papiers différents ou trois fois la même chose. Ou, voilà, et il faut comprendre ce qu'elle dit. Hein. Il n'y a pas de traducteur en préfecture. Enfin, voilà, c'est un service qui est quand même minimum.
C'est le moins qu'on puisse dire, si je peux rajouter quelques éléments. En fait, peut-être il faudrait déjà définir un petit peu les catégories de personnes qui viennent nous voir, parce que souvent, les gens nous parlent de droit d'asile. Mais l'asile concerne pas beaucoup de monde, en fait, dans cette catégorie de personnes qui n'a pas de titre de séjour régulier. Donc, la délivrance d'un titre de séjour pour l'asile, ça sera délivré à Paris. Mais après, les autres titres de séjour, si la personne a été déboutée de son droit d'asile ou de toute façon n'y avait pas droit pour X raison parce qu'elle ne rentrait pas dans cette catégorie, après, les titres de séjour relèvent d'une demande en préfecture. Pour le titre de la santé, par exemple, ou d'un regroupement familial, où bon, il y a plusieurs catégories. Et c'est là que commence le parcours du combattant et le chemin bordé d'épines. Voilà. Parce que la préfecture, finalement, fait appliquer les lois, puisque c'est son rôle. Mais on s'aperçoit quand même qu'au niveau de l'empathie humaine, on va dire qu'elle est vraiment très, très minimaliste. Quoi. Il n'y a vraiment aucun effort d'accueil, aucun effort de langage, aucun effort de traduction. Voilà, ça ne fait pas partie de leur mission, apparemment.
Alors qu'ils seraient tenus à faire ces efforts-là Est-ce qu'il y a un texte qui l'a dit?
Ça, j'en sais rien.
Humainement,
mais je pense que déjà sur le plan humain, si on veut être compris, ben faut s'en donner les moyens, quoi.
Et puis c'est un service public. Un service public, il est quand même chargé au minimum d'essayer de faire comprendre à la personne qui est là ce qu'elle veut dire, voilà. De se faire comprendre, voilà.
Quand on y va, on s'aperçoit qu'il y a quand même plus de sympathie au bureau de délivrance des permis de chasse ou des cartes grises qu'au bureau des étrangers, quand même. Il faut le dire, quoi.
Et alors ce collectif intervient sur Millau, mais est-ce qu'il y a la même chose sur Rodez, sur Decazeville, ailleurs?
Oui, bien sûr.
Il y a un collectif sur Rodez.
Oui, à Villefranche aussi.
Gens qui aident et qui s'investissent. Quoi. Oui. Et vous, notamment, il y a un dimanche au mois de mars, vous avez organisé quelque chose de très intéressant, m'a-t-on dit.
Oui, alors c'était le 25 mars à Millau, parce qu'on avait décidé de s'inscrire dans le processus des états généraux des migrations.
Qui ont lieu fin mai.
Voilà. Et alors, ce processus a été lancé à l'initiative de 470 collectifs et associations sur le plan national. Bon, il y a des associations très connues comme France Terre d'Asile, Amnesty International ou la CIMAD, puis plein de petits collectifs locaux comme nous. Donc, le but, c'était de faire remonter vraiment de la base l'état des lieux localement, là où chacun se trouve, quelles problématiques il rencontre, faire remonter ça, du coup, à une plateforme qui a été mise en place par tout ce collectif sur le plan national. Et fin mai, il va y avoir un compte rendu, 26 mai, je crois. Il y a une synthèse qui est faite localement et qui va être faite nationalement par les collectifs, les associations, les citoyens, en fait. Quoi. C'est histoire d'amener une autre voix que celle que le gouvernement, entre autres, voudrait faire entendre unilatéralement.
Voilà, alors le gouvernement, lui, vient de promulguer une loi, là, il n'y a pas longtemps, hein, asile et migration. Et ces états généraux ont pour but d'influer sur cette loi.
Voilà, on n'est pas d'accord dans la plupart des propositions qui sont faites dans le cadre de cette loi, qui réduit de manière quand même assez conséquente les droits des étrangers sur le sol français. Hein. Ça, de toute façon, au fur et à mesure du temps, c'est forcément réduit. Hein.
Quel que soit le gouvernement.
Voilà, c'est réduit et c'est réduit. Et en plus, c'est pas du tout, positif. C'est pas du tout un message positif qui est envoyé avec cette loi. C'est-à-dire, il y a aucun... L'État français ne donne pas d'accueil de message à la population, d'accueil des gens. Enfin, voilà, je pense que nous, ce qui est important, c'est ça, c'est que... En face, il y a des gens qui ont envie d'accueillir les gens qui arrivent en France pour différentes raisons. Et nous, on en fait partie, mais il y a plein de gens. Et le gouvernement décide, lui, que c'est l'inverse qui va se passer. Hein, donc, on réduit les délais d'instruction, par exemple, pour les demandes d'asile. Mais c'est simplement pour embêter les gens, parce que passer de 1 mois à 15 jours, à part les embêter et qu'ils ne puissent pas le faire, à savoir que déjà il faut faire un recours avec un avocat, il faut faire un truc en français, il faut apporter des documents supplémentaires parce qu'on a été refusé par l'OFPRA. En 15 jours, voilà. À part embêter les gens, je ne vois pas quelle est la raison. Alors, ils disent que c'est pour réduire le délai. Non, c'est pour réduire la possibilité des gens d'avoir accès à ce droit. C'est vraiment ça.
C'est ça qui est pernicieux, parce que en fait, non seulement on s'aperçoit que la volonté de ce gouvernement, comme de plein d'autres, hélas, c'est de restreindre le droit à l'immigration, mais en même temps, on s'aperçoit que le gouvernement en premier véhicule des fausses informations. On parle de réglementer les fake news, mais qui commencent par déjà vérifier ce qu'ils disent. Et je pense qu'au fond, ils ont assez de rapports dans leurs tiroirs et dans leurs étagères, parce qu'il y a X documents qui ont été fournis par des chercheurs, des universitaires, voilà, que ce soit sur le plan purement pragmatique, économique, sur le plan de la santé publique et sur le plan tout bêtement humain, sur le plan démographique, c'est complètement contre-productif. C'est absolument à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Et ça ressort vraiment de la synthèse de tous les collectifs, des états généraux qui se sont tenus un peu partout en France. Ça ressort partout, quoi. On fait l'envers de ce qu'il faudrait faire. On abrutit les gens via la télé ou les médias de masse en faisant peur sur une soif possible invasion de migrants. Mais enfin, la France, on n'est qu'au 14e rang de l'accueil des demandeurs d'asile. C'est pipi de chat, quoi. C'est dérisoire.
À peu près en milliers, c'est quoi ? C'est pas beaucoup.
100 000 personnes demandeurs d'asile. L'année dernière...
On est 36 000 communes en France. 36 000 communes. S'il n'y en avait qu'un, ne serait-ce que par commune, ça ferait 36 000 personnes. Mais on est loin du compte.
Oui, en février 39, ont été accueillis 500 000 Espagnols.
Ouais. Voilà, on n'arrête pas.
Et 2000 Espagnols en gare de Rodez.
Et 2000 en gare de Rodez, quoi. Voilà. Et ces lois sont anti-migrants, mais sont anti les gens qui veulent aider les migrants.
Bien sûr. Parce que, alors, peut-être qu'on peut la détailler un petit peu, oui. Cette loi. Bon, on va la détailler peut-être pas, mais voir ce qui a été mis en avant. Alors, en fait, quand la personne est déboutée, quand elle n'a plus ses titres de séjour, elle va se voir délivrer une OQTF. C'est une obligation de quitter le territoire français. Alors, elle a la possibilité de faire un recours. Mais en attendant, elle va être mise en centre de rétention. La durée maximale de rétention, pour le moment, est de 45 jours. Et la loi prévoyait 135 jours. Alors, ils ont fait un petit pas en arrière et sont tout contents de nous dire que finalement, bon, ça ne sera que de 90 jours. Mais en fait, c'est un doublement de la durée initiale. Ensuite, la France a été pointée aussi par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que dans ces fameux centres de rétention, il y a des enfants. Ce qui est complètement interdit. Eh bien, la détention des enfants, du coup, elle ne va plus être interdite par cette nouvelle loi, mais elle va être adaptée pour les enfants dans des centres adaptés. N'empêche que ça sera quand même des enfants qui seront en centre de rétention.
Qui n'iront pas à l'école.
Et qui n'iront pas à l'école, voilà. Ensuite, donc Colette l'a dit, le recours pour une demande d'asile, on n'aura que 15 jours pour se retourner, autant dire mission impossible. Alors ensuite, on nous parle souvent du délit de solidarité. Alors il faut savoir qu'il est toujours non conforme au droit international, mais que les conditions requises pour ne pas être poursuivi sont toujours quand même une épée de Damoclès. Parce que, en fait, on peut fournir des conseils juridiques, on peut fournir de l'alimentation et de l'hébergement, on peut fournir des soins médicaux, dans la mesure où il n'y aura pas de contrepartie directe ou indirecte. Voilà. Mais ça peut s'appliquer pour les personnes qui sont déjà présentes sur les territoires. Et le problème se pose à Calais et du côté de Vintimille, dans la vallée de la Roya, parce que qu'est-ce qu'il en est de l'aide lors de l'entrée ou de la circulation des personnes, hein, au niveau des frontières? Voilà.
Là, c'est toujours puni par la loi.
Et là, c'est toujours puni par la loi. Voilà. D'ailleurs, Colette, tu voulais dire quelque chose à ce sujet
parce que bah, demain, je voulais parler donc de ce qui se passe en ce moment du Roya, côté de... Non, c'est à Briançon, hein, puisque voilà. Bon, maintenant, la frontière, visiblement, au sud de la France, ça doit être un peu compliqué. Donc, les migrants passent un peu plus haut ou essayent de passer un peu plus haut. Et il y a des personnes, un Suisse et deux Italiens qui ont été arrêtés à Briançon et qui sont accusés d'avoir fait... Enfin, eux, ils sont accusés d'avoir passé la frontière déjà, parce que, bon, ils ont le droit, hein, ils sont... européens, nous on a le droit au principe, ou alors je suis pas au courant, et d'avoir fait passer avec eux des personnes par la montagne, tout ça. Ce qui est grave dans cette histoire, parce que en général quand même on n'arrête pas les gens, on les met pas en prison, et pour le moment ils sont en prison, donc ils sont en prison depuis une semaine, on saura demain s'ils vont y rester, mais c'est vrai que les conditions, en tout cas, s'aggravent pour les personnes qui aident les migrants dans cette région, et ça aboutit à des situations comme ça, qui sont quand même des situations graves, quoi.
Et c'est la première fois, il me semble, que des personnes ont été placées en détention pour aide à des personnes migrantes.
Oui, je pense. Alors, on a beaucoup parlé de Cédric Héroux et de voilà, tous les citoyens de la vallée de la Roya, et qui disent qu'eux-mêmes, on leur met des embûches à répétition, les contrôles d'identité ont lieu X fois dans la même journée, dans la même semaine, c'est du délire, quoi. D'ailleurs, je voudrais rappeler la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et elle est ajoutée d'un protocole contre le trafic illicite de migrants par la terre, par la mer ou par les airs. Donc cette convention, elle a été ratifiée par la France le 29 octobre 2002. Donc ça fait quand même 16 ans. Et elle dit que sont réprimés les actes d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'une personne étrangère dès lors qu'ils ont été commis intentionnellement et pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou autre avantage matériel.
Les passeurs, mais ce n'est pas le cas ici.
Voilà, donc apparemment on s'assoit sur cette convention.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière, la rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire, j'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
Aux gens qui se permettent, et je trouve que c'est très bien d'aider les migrants. Sabine, tu voulais intervenir?
Oui, je voulais juste rajouter qu'en fait, ils ont trouvé la raison comment garder effectivement les militants en prison, tout simplement parce qu'effectivement, ils disent que c'est pour leur propre intérêt politique, parce qu'ils militent donc pour le droit à l'asile et pour aider les immigrés. Et donc, effectivement, voilà, je dirais que excusez-moi, je me perds un peu, mais voilà, ils pouvaient pas prétendre, si vous voulez, garder les gens pour les raisons qui ont été citées tout à l'heure. Donc, ils ont cherché vraiment des raisons très loin pour pouvoir les garder en prison, en disant que voilà, c'était pour leur propre intérêt, parce qu'ils militent pour ces droits-là, pour ces personnes-là. Donc, c'est pour un intérêt politique.
Tout à fait. Il est question d'une marche bientôt, Cafou ou Colette?
Alors donc la marche des migrants, donc qui a été initiée entre autres par l'Auberge des migrants, donc qui est une association sur Calais, donc regroupe aussi beaucoup d'associations, hein, parce que ce genre de marche ne peut pas se faire seule. Elle est partie le 30 avril de Vintimille, dont en Italie, à la frontière, et elle doit rejoindre Calais et je pense Londres, il m'a semblé entendre Londres, et après donc avec une série de personnes qui peuvent s'inscrire jour par jour pour faire cette marche, et bien sûr voilà, avec des soutiens divers et des haltes à chaque soirée pour parler de ce qui se passe sur chaque territoire.
Millau, c'est synonyme de marche, hein, des années 70, des années Larzac. Vous n'avez pas envisagé de faire une marche sur la préfecture de Rodez?
On y va régulièrement, au moins une fois par semaine. Et on y va pour accompagner des personnes.
Donc vous y êtes reconnue?
Alors, ouais. Le collectif en tant que tel, comme les collectifs de Villefranche ou de Rodez, sont reconnus. Oui, maintenant, ils sont reconnus institutionnellement. Le CCAS, la direction départementale de la protection des populations.
Et de la cohésion sociale.
Et de la cohésion sociale. Voilà. Les mairies, les élus, nous reconnaissent. On est reconnus. On est même quelquefois invités à certaines tables rondes. J'imagine qu'on n'est pas dans les coulisses les plus importantes, mais de temps en temps, on est quand même invités. Donc, on est reconnus. Mais par contre, on n'est jamais entendus. Ça, c'est clair.
Ils vous écoutent, mais ils ne vous entendent pas.
Oui, je pense que c'est très tendance.
Pourtant, lors de cette journée du 25 mars à Millau, vous avez montré que vous côtoyez un certain nombre de nationalités chez les migrants.
Ouais.
J'en ai dénombré 11, je ne sais pas si je peux les
oui,
citer.
Oui, hein, bien sûr.
Il y a des migrants de Mongolie, de Tchétchénie, de Géorgie, des Comores, du Kosovo, d'Ukraine, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, de Congo-Brazzaville, et de Maroc, du Maroc et de l'Algérie.
On a oublié même la Guinée, on a oublié quoi, je ne sais plus, mais enfin bon.
Vous jouez donc un rôle
mais bien sûr,
primordial, quoi.
Dans
le début de la chaîne, mais après, sauf que ça continue pas après.
Oui, et puis on est un peu, moi ce qui me met un peu mal à l'aise dans tout mon investissement militant, c'est quelque chose qui relève un peu du couvercle sur la marmite, c'est-à-dire qu'à un moment on s'engage sur le plan personnel, parce qu'on trouve que c'est normal, que c'est légitime, et moi je dis bien que je suis pas dans le caritatif, je suis dans le droit, voilà, le droit que je prétends avoir pour moi à circuler partout dans le monde, je le revendique pour tout le monde. C'est pas un droit qui est réservé aux riches, à mon sens. Encore en marchandises, bien sûr. Donc, ce droit-là, je le revendique pour tout le monde. Je suis pas dans le caritatif, je suis dans le droit. Mais n'empêche qu'au concret, ce sont des personnes humaines, comme moi. Voilà, on partage, c'est bête à dire, mais des joies et des peines. Et de temps en temps, je m'en veux. C'est vrai que je m'en veux parce que je me dis, c'est facile pour les pouvoirs publics, mine de rien, ils s'en lavent les mains et puis ils se déchargent sur les assos, sur les collectifs. Mais c'est du même registre que les associations qui luttent contre la précarité, etc. Quelquefois, on est un peu le couvercle sur la marmite, on est pratique, ça empêche le bouillon de sortir et finalement, c'est un peu un vecteur de paix sociale.
Et c'est vrai que le problème de fond, c'est les frontières, quelque part.
Voilà.
Et aussi que cette politique migratoire que met en place le gouvernement, tu en parlais tout à l'heure aussi, c'est quelque chose ça a une notion de bouc émissaire.
Pour moi, c'est évident. Parce que quand X chercheurs nous ont prouvé par A plus B, comme je le disais tout à l'heure, que sur le plan économique, démographique, cette politique anti-immigrée était contre-productive, ne serait-ce même que pour la simple prospérité du pays, à quoi elle sert finalement, cette politique anti-immigrée? Elle sert, il y a des visées électoralistes, on s'aperçoit que diviser les peuples et diviser les classes, ça a toujours été instrument du pouvoir et que finalement avoir un étranger sur qui taper et qu'on montre du doigt en disant que c'est la faute de tout, c'est bien pratique, voilà, comme ça on parle pas des évasions fiscales, on parle pas des spéculations, on parle pas des entreprises qui licencient, on parle pas des vraies raisons, c'est la faute aux étrangers, c'est tellement plus simple.
Et en plus il y a une unité au niveau européen.
C'est
au niveau du bannissement du territoire.
Alors, donc, pour revenir au point sur la loi asile et migration, on a parlé tout à l'heure que le délai allait être réduit pour les possibilités de recours. Et d'ailleurs, je voudrais dire que s'ils veulent réduire les délais, il va falloir qu'ils embauchent des personnes. Parce que le problème, en fait, c'est bien de réduire les délais, que les personnes aient une réponse rapide, pourquoi pas. Mais la seule solution pour que l'OFPRA, donc l'Office pour les réfugiés qui est à Paris, ou le CNDA, qui est la Cour nationale du droit d'asile, puisse aller plus vite pour faire les démarches, c'est qu'il y ait des personnes pour s'en occuper. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, et dans la mesure donc, où ces personnes vont être obligées par la suite donc, de quitter le territoire, cette loi prévoit donc, un bannissement du territoire. C'est le terme exact, hein, ouais, donc je ne l'invente pas. Hein, elles seront bannies. Alors, jusqu'à présent, c'était possible dans certaines conditions à partir de la France. Maintenant, ça va être beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'elles seront bannies de l'Europe. Elles ne pourront plus revenir, ça s'appelle interdiction de retour, pendant
X temps.
Alors, selon les situations, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Hein, et sans possibilité, pendant cette période-là, de revenir sur le territoire français pour X raisons. Imaginez que cette personne se marie avec un Français et veut revenir, et il va falloir qu'elle attende 5 ans que ça soit possible. Voilà, donc ça fait partie des bêtises qui sont mises en place sans qu'il y ait en face de véritables réflexions ou de personnes chargées d'accueillir, de répartir sur le territoire les personnes qui arrivent, de les prendre en compte,
D'ailleurs, dans la même veine, le droit de recours, donc, on vient de voir qu'il va être restreint. Et d'ailleurs, on pourra renvoyer la personne qui aura déposé un recours, on pourra la renvoyer dans son pays d'origine avant même que la décision finale de sa demande de recours ait abouti, quoi. C'est fou. Et en plus, toutes ces mesures-là, on a oublié de le dire, c'est que ça nous coûte une fortune, quand même. Hein, les centres de rétention, la police, etc. Là, on pourrait en construire des foyers, des logements, enfin, on pourrait en faire des choses. Hein.
Voilà, c'est financièrement. C'est des choix qui ne sont pas faits.
Ouais, et puis l'argent aux frontières, c'est quoi? C'est Frontex, sans parler de toute la chasse aux migrants en Méditerranée. Il y a des agences de surveillance là qui c'est de l'argent, c'est une économie, mais sur le plan de l'Europe, on préfère cette économie-là. Quoi. Sans parler de l'argent qu'on déverse sur des potentats locaux, pour pas dire des dictatures, Tchad, Libye,
Turquie,
n'en parlons pas évidemment, même la Grèce, hein, c'est des États, ils nous sont très pratiques, c'est des États tampons, voilà, l'Europe leur verse des subsides et surtout gardez-les sur votre territoire,
qu'ils viennent pas faire du bruit. La Grèce actuellement est chargée donc d'endiguer les migrants qui arrivent et surtout qu'ils ne sortent pas de Grèce, qu'ils restent là. Comme la France est chargée par l'Angleterre. D'ailleurs, de garder les migrants qui sont à Calais et surtout qui n'aillent pas là-bas. Ouais. Donc là, c'est dans l'autre sens. Hein, mais on paye et on se retrouve dans des situations où on ne peut plus gérer. C'est pas des containers dans un port. Ce sont des personnes.
Et humainement, c'est désastreux pour les personnes migrantes concernées, mais pour les populations locales ici, pareil, quoi. Parce que évidemment, à Calais, la jungle. Je trouve pas de meilleur mot, ça devient vite la jungle, quoi, la jungle humaine. Et je peux concevoir que pour les habitants locaux, ça soit aussi pénible, quoi. À Paris, c'est pareil, rue de la Chapelle, porte de la Chapelle, vu que rien n'est organisé, ou plutôt, il y a une volonté vraiment de ne pas organiser l'accueil de migrants, forcément, c'est des campements dans la rue, donc c'est des poubelles, donc c'est des nuisances, donc c'est du bruit. Donc c'est des bagarres et forcément l'habitant du quartier au bout d'un moment je lui jette pas la pierre, il peut en avoir marre, mais c'est pas la faute aux migrants, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté d'organiser cette migration.
Sabine, tu voulais dire quelque chose?
Justement, d'après vous, moi j'ai l'impression pour pouvoir asseoir cette politique, ils ont réussi à inscrire dans l'esprit des gens qu'il y avait des bons et des mauvais migrants. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Oui, pour moi, t'as remarqué juste, parce que on met en avant le droit d'asile. Alors bon, je pense avoir expliqué tout à l'heure un petit peu en quoi il était dévoyé, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui auraient des raisons nobles et donc de venir chez nous. Donc nous, ça nous rendrait nobles de les accueillir. Et puis les autres, du coup, c'est que de la migration économique. Donc ça n'a pas à être considéré. Donc du coup, nous, notre couronne aussi, elle est pas très reluisante à ce niveau-là. Oui, moi, je trouve que ta remarque est juste. Pour moi, il n'y a pas de bon, il y a de mauvais. Il y a un droit à la libre circulation des personnes, point final.
Et cette libre circulation a eu lieu depuis tous les temps.
Bien sûr.
Il y en a de plus en plus. Il y en a encore avec les guerres, avec les problèmes climatiques. Comment est-ce que vous voyez le bout du tunnel ?
Les choses, de toute façon, les gens vont continuer à migrer.
Ouais. Hein, de toute façon.
Donc, voilà.
C'est pour ça qu'il faut l'organiser.
Voilà, donc, il n'y a pas. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de les accueillir. Vraiment, je répète ça parce qu'on a l'impression que, il y a beaucoup de gens. Mmh. Et même dans certaines petites villes où quand il y a eu un cadavre installé, où il y a eu des réactions négatives, à partir du moment où les gens sont arrivés, la réaction a été complètement différente. Parce qu'en fait, ça peut être aussi de la méconnaissance, des préjugés qu'on a sur des personnes qui vont arriver qui ne sont pas de la même origine ou de la même... je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Mmh. Et en fait, après, les choses se passent bien. Voilà. Donc, on est en capacité d'accueillir. On a envie de le faire. Et voilà. Et laissons les imbéciles qui n'ont pas envie de le faire. Et voilà.
Il y a toute une volonté dans votre action d'agir contre l'ignorance.
Pour moi, je trouve que c'est primordial. Hein. L'ignorance, la haine, ça crée la peur.
Vous mettez plus de crédit à ça, l'action contre l'ignorance, que à l'action que va pouvoir avoir le Sénat, j'imagine. Et aux fameuses lois asile et migration.
On va continuer le lobbying, puisqu'il faut bien le faire. Et il y a peut-être quelques vieux croutons du Sénat qui auront encore peut-être quelques pensées charitables et qui lèveront la main. Mais ça c'est mon acidité personnelle. Mais c'est vrai que oui, tous les secteurs de la vie, je pense, c'est l'ignorance qu'il faut combattre. Hein. Et donc, quand on a peur, au lieu de se rétracter, peut-être qu'il faut respirer un grand coup et aller vers l'autre, et sans idéaliser, parce que des cons, il y en a partout, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas ailleurs. Mais comme il y en a aussi chez nous, ma foi, on est tous les mêmes. Quoi. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'autre, c'est moi, hein, comme a dit l'autre, n'est-ce pas ? Et du coup, l'étranger, c'est nous. Enfin, ce qui pend au nez de l'étranger, c'est ce qui nous pend à nous un jour. Voilà. Sur le plan très pragmatique, je me souviens d'une réaction qu'on a eue à Millau, c'est quand Sarkozy a commencé à démanteler les services publics et du coup a supprimé quelques services à la sous-préfecture de Millau. Je vous le donne en mille. Quel a été le premier service supprimé à la sous-préfecture de Millau ? C'est le service d'accueil aux étrangers.
Et maintenant, il n'y a plus rien.
Si on veut vous soutenir, les gens prennent contact avec la radio et on les mettra en relation avec vous.
Oui, voilà.
Un mot d'espoir pour finir, Valérie, Colette.
Merci à toi.
Merci à toutes les personnes qui se redressent et qui restent debout et qui ouvrent grand les bras. Voilà.
Et qui se battent contre l'ignorance.
Voilà.
Merci.
Au revoir. Merci à vous.
Les associations sud-avéronaises ont leur mot à dire sur Radio Saint-Afrique. Chaque dimanche à 13h, c'est le créneau association sur Radio Saint-Af, micro ouvert pour toutes les associations du Sud-Aveyron.